et bienvenue à vous. Bonsoir Sabine.
Bonsoir.
Alors, votre séquence actu ce soir commence avec la situation difficile des chrétiens en Érythrée.
Oui, l'Érythrée, où la persécution des chrétiens n'a jamais été aussi sévère et continue de s'aggraver. L'organisation de défense des chrétiens, Porte Ouverte, tire la sonnette d'alarme. La semaine dernière encore, 37 étudiants chrétiens en arts et sciences sociales ont été emmenés par la police, ce qui fait depuis le début de l'année 191 chrétiens incarcérés dans des conditions atroces. D'après l'organisation Porte Ouverte, des milliers de chrétiens sont sous les verrous, parfois enfermés dans des conteneurs métalliques dans les camps militaires ou torturés. En 2012, 31 chrétiens seraient décédés en prison. Et c'est le gouvernement lui-même qui est à l'origine de ces arrestations. Il y a en Érythrée 2,5 millions de chrétiens principalement orthodoxes, mais c'est surtout les églises minoritaires, évangéliques ou pentecôtistes qui souffrent le plus de ces persécutions. Et de manière générale, toutes les religions qui ne sont pas prêtes à être sous le contrôle de l'État. Du reste, Amnesty International a publié un rapport en mai dernier et alerte sur la répression rampante, les arrestations arbitraires et la maltraitance des dissidents en Érythrée.
Une situation peu connue que celle de l'Érythrée. Alors de l'Érythrée, on passe maintenant à la République tchèque, où les églises vont être indemnisées pour compenser une confiscation de biens qui a eu lieu durant la période communiste.
Oui, alors c'est une page qui se tourne après 60 ans de polémique entre l'Église et l'État. La loi pour la restitution des biens aux églises va enfin pouvoir être appliquée, car la Cour constitutionnelle tchèque vient de rejeter le recours de 18 membres du Sénat. Alors on rappelle que le régime communiste a exproprié en 1946 les 16 églises confessionnelles de Tchéquie d'environ 56% de leurs biens, des terrains, des bâtiments, des forêts, ce qui va être compensé à hauteur de 5,35 milliards d'euros.
Une belle somme.
Oui, c'est une somme extrêmement conséquente et qui passe mal dans l'opinion publique alors que le pays connaît des coupes budgétaires importantes et que la population tchèque est la plus attachée d'Europe. Même la France n'est statistiquement pas aussi athée et sécularisée que la Tchéquie, dont un habitant sur 10 à peine appartient à une religion.
Au degré de sécularisation. Alors retour en Suisse romande avec deux changements qui concernent des églises.
Oui, côté catholique, c'est la démission de Mgr Brunner, l'évêque du diocèse de Sion. À 4 ans de la fin de son mandat, après 18 ans passés à la tête de son diocèse, le Haut-Valaisan a pris une décision qui a surpris. Il estime ne plus avoir la force nécessaire pour relever les défis qui s'annoncent. Et la question qui reste en suspens est évidemment celle de sa succession. Quel évêque pour le Valais, titrait jeudi le Nouvelliste. Mgr Brunner a été un évêque plutôt conservateur, du moins dans son style de gouvernance. Alors, y aura-t-il une rupture de style avec un successeur qui serait davantage dans la veine d'une nouvelle génération d'évêques, comme celle de Mgr Morero à Fribourg ou Mgr Gmür à Bâle, des évêques qui exercent très différemment leur gouvernance épiscopale? Pour l'heure, évidemment, la question reste ouverte.
On va suivre cette affaire. Et on passe à Neuchâtel, où l'église évangélique réformée de Neuchâtel, l'EREN, a un nouveau président.
Oui, Christian Miaz a été élu par le synode et prend la tête de l'église neuchâteloise à la suite de Gabriel Bader, qui se retire après 7 ans de mandat. Christian Miaz travaille depuis plus de 27 ans dans l'EREN et il prendra ses fonctions le 1er septembre prochain. Et évidemment, de nombreux défis l'attendent. L'église évangélique neuchâteloise ne dépend pas de l'État. Elle a peu de moyens. Elle a été marquée par la perte de grands contribuables. On se souvient, par exemple, Philippe Maurice en 2010, qui avait cessé de payer sa contribution volontaire. Et donc, l'équilibre financier est très difficile à trouver.
Donc, les défis ne vont pas manquer. Et notamment, un changement important qui se profile au niveau suisse, au niveau de la Fédération des églises protestantes de Suisse, qui pourrait même être un tournant pour l'ensemble des églises réformées de Suisse.
Sabine. Oui, effectivement, la FEPS revoit sa constitution et d'ici 2016, il se peut qu'on ne parle plus de la FEPS, mais de l'EPS, Église protestante en Suisse. Alors, au-delà du simple changement de nom, c'est le rêve d'unir une fédération de 26 églises cantonales en une seule et même église protestante en Suisse.
Mmh. Alors un projet de taille en effet, mais on le rappelle, il n'est pas encore validé puisque la FEPS consulte actuellement ses églises membres, ce sera jusqu'en automne, pour leur soumettre une idée, un projet, une esquisse de constitution.
Oui, oui, la FEPS propose de renforcer la collaboration des églises protestantes cantonales pour avoir une parole commune, une parole audible dans l'espace public suisse. Et ce souci de visibilité a des implications structurelles et politiques. Si chaque église cantonale devrait rester indépendante, elle se présentera à l'échelle nationale comme une seule entité, avec une direction tripartite, un synode national qui devrait remplacer l'actuelle assemblée des délégués, un conseil et un ou une présidente pour représenter l'Église en Suisse et à l'étranger. Et puis enfin, l'idée est également de créer des lieux de rencontre et de discussion. Par exemple, une journée d'église nationale, comme le font déjà les églises réformées allemandes et françaises.
Alors, une église réformée unie au niveau suisse, avec une fonction présidentielle représentative dans l'espace public. Bon, on connaît la méfiance épidermique des réformés pour la centralisation. On imagine bien que la question va faire débat dans les prochains mois. Alors, on va en parler avec votre invité, Sabine. Gottfried Löcher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président actuel de la Fédération des Églises protestantes de Suisse. Alors, dites-nous pour quelles raisons envisager un tel changement? On sait que certaines églises cantonales sont en difficulté financière. Est-ce que c'est d'abord une question d'économie d'échelle?
Bon, je crois que la topographie religieuse de notre pays a fortement changé. Il faut que le protestantisme change aussi, ne pas en matière de ses valeurs, valeurs chrétiennes et humaines, mais dans ses structures. Et c'est pour ça que nous proposons qu'il faut maintenant vivre la diversité et à la fois concentrer les forces.
Mais Gottfried Löcher, qu'est-ce que recouvre cette idée de communion d'église? Est-ce que c'est du registre opérationnel, organisationnel, ou est-ce que c'est davantage l'idée de définir une théologie, des valeurs, une mission commune pour les églises réformées en Suisse?
Bon, je crois que c'est plutôt une question d'identité, car il faut éviter un malentendu. L'église protestante en Suisse ne remplace pas les églises cantonales. La diversité protestante est indispensable et nous ne voulons pas de centralisme. Ce qui nous préoccupe est d'avoir une voix commune, une voix vis-à-vis des églises et de l'écuménisme, une voix vis-à-vis des autorités nationales, et pour ça il faut un peu plus de liens.
Mais est-ce que c'est pas illusoire, vous parlez de voix commune, est-ce que c'est pas illusoire l'idée qu'une seule et même église puisse se souder ensemble alors qu'on sait qu'il y a des sensibilités culturelles extrêmement différentes?
Non, je crois pas. Je crois qu'il faut garder les différences, car l'unité en diversité, c'est vraiment notre motto. Mais à la fois, il faut aussi avoir, et je crois que la volonté est déjà là, d'unir un peu ce protestantisme et d'avoir un équilibre de diversité et d'unité. Et c'est quand même un mandat de nos églises membres de renouveler notre constitution et d'aller dans cette direction.
Mais est-ce qu'il y a certaines églises qui auront plus ça et gagné que d'autres?
Non, je crois pas. Si on fait bien ce projet-là, on gagne une dimension nationale et on perd rien du tout. On reste des églises indépendantes, mais on gagne une voix commune pour mieux représenter le protestantisme en Suisse.
Gottfried Löcher, si on revient sur cette question d'avoir un président de l'église protestante en Suisse, est-ce que c'est une fonction qui sera en quelque sorte une fonction épiscopale? Comment vous voyez cette...
Chez nous, on ne parle pas de cette fonction épiscopale. Ce qu'on aimerait faire, il ne change pas beaucoup dans la vie pratique, parce que maintenant, on a déjà un président. Mais une présidente de l'Église protestante en Suisse pourrait très bien, avec un mandat formel, représenter notre Église, le protestantisme en Suisse, au niveau national et international.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de concentration de pouvoir quand même, ou du moins de légitimité? Comment est-ce qu'on peut imaginer que toutes les églises se reconnaissent dans la voix de ce président qui doit les représenter sur la scène publique?
Il ne faut pas oublier que les présidents, les présidentes cantonales restent dans leurs fonctions. Et une vie unifiée, une vie centralisée de l'église n'est pas envisagée. Mais déjà aujourd'hui, on a le besoin de parler commune, par voix commune, et comme cette interview maintenant, alors il faut une fonction dont les présidents, dont les églises cantonales peuvent s'utiliser sur le plan national.
Mais en quoi est-ce que cette fonction de président se différencie de la fonction d'un évêque de l'église catholique, par exemple, ou luthérien, peut-être?
C'est essentiel, la différence, parce qu'on va renforcer aussi le synode national. Le synode va décider des projets, des stratégies de l'église. On va renforcer le conseil. On ajoute 2 personnes pour mieux inclure les voix des églises cantonales. Alors, la fonction du président n'a pas vraiment gagné.
Gottfried Löcher, sur le plan éthique, comment vont être gérées les questions polémiques? Je pense par exemple à la question de la bénédiction des couples homosexuels. Comment voyez-vous la gestion de ces questions si polémiques?
Alors, les questions éthiques seront débattues au synode, ce qui permettra aux églises d'être plus impliquées dans les décisions et de prendre leurs responsabilités tout en restant quand même autonomes.
Mais d'après ce que j'ai pu voir, il est prévu que le synode national ne se réunisse qu'une seule fois par année, alors qu'actuellement l'actuelle assemblée des délégués se réunit 2 fois. Est-ce qu'il n'y a pas quand même le risque pour le synode d'avoir moins de poids, d'être affaibli?
Peut-être le risque est là et il faut faire quelque chose contre ce risque parce que nous pensons d'un synode plus long de quelques jours pour vraiment avoir la possibilité de discuter ensemble. Alors le but, c'est de renforcer le synode.
Gottfried Löcher, pour bien vous comprendre, sur des questions très très sensibles, par exemple la question de l'homosexualité, mais il y en a bien d'autres aussi, la question du diagnostic préimplantatoire, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une voix, si j'ose dire unique, au niveau de l'Église protestante suisse?
Je crois qu'une voix absolument unie n'est pas possible et on ne devrait pas envisager ça dans le protestantisme. Mais quelque chose comme une Bandbreite, je ne sais pas le mot en français, alors une marge de manœuvre, de position, une telle marge de manœuvre est nécessaire. Des positions qui sont en lien avec les unes, avec les autres et qui sont perceptibles pour le public.
Gottfried Löcher, concrètement, ces 10 dernières années, s'il y avait eu ce nouveau modèle d'église réformée en Suisse, qu'est-ce que ça aurait changé? Est-ce qu'il y a eu un moment durant ces dernières années, ces 10 dernières années, où on pourrait dire que les protestants ont raté le coche et que s'il y avait une structure comme celle qui va être proposée, ça aurait changé quelque chose?
Bon, c'est toujours difficile à dire. C'est pas seulement une question de structure, c'est une question d'identité. Est-ce que les réformés en Suisse veulent vraiment avoir une identité ensemble? Et oui, je crois que notre voix serait plus claire, plus perceptible si on aura cette église protestante en Suisse.
Alors ça, c'est le souhait pour l'avenir, mais pour le passé, est-ce qu'il y a un événement pour lequel vous dites « mince, si on avait eu cette structure, on aurait été visible » ? Pas de regret par rapport à un événement du passé?
Il ne faut pas aller trop vitement parce que pour nos églises, c'est nouveau. Et c'est vraiment une question qu'il faut faire avec des sensibilités cantonales. Et nous sommes enthousiasmés, mais il prend maintenant du temps pour avoir cet enthousiasme dans toutes les régions.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Gottfried Löcher, en direct, bien sûr. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des Églises protestantes de Suisse. Alors, on va rappeler que les milieux concernés par ce projet sont consultés jusqu'à cet automne. Il y a un forum au sujet de cette consultation qui a été placée sur le site de la FEPS et le lien vers le site de la FEPS, eh bien, vous le trouverez sur notre page internet rts.ch/haute-fréquence. Gottfried Löcher, on vous souhaite une excellente soirée.
Merci, pareillement.
Au revoir.
Au revoir.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. 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 One.
Johnny Cash, One.
Haute fréquence, le son des religions.
Et on vous emmène à présent à la découverte d'un art martial japonais, l'aïkido, art martial qui est également aussi une philosophie, un art de vivre, vous allez le voir. Et c'est vous, Catherine Erard, qui êtes partie en exploration pour nous.
Oui, alors quand on dit art martial, on entend souvent technique de combat, d'ailleurs souvent à main nue, mais il y a toujours des valeurs philosophiques, spirituelles qui sont attachées à ces arts martiaux, que ce soit dans le judo, le kendo, le karatédo, et c'est particulièrement présent dans l'aïkido qui a été fondé en 1942.
Un des derniers venus dans la famille des sports en do.
Exactement.
Do, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, do, en japonais, c'est la traduction du tao chinois, si ça vous aide. Donc, tao, en chinois, ça signifie la voie, le chemin, on peut aussi dire la philosophie. Alors, aïkido, aï, harmonie, amour, ki, ça veut dire l'énergie, on retrouve ça par exemple dans le reiki. Mm-hmm. Donc si on traduit aïkido, ça fait la voie de l'harmonie des énergies, on parle aussi d'art de la paix.
Merveille la langue japonaise.
Voilà. Le but, donc, c'est lors de l'attaque de l'adversaire, c'est d'utiliser sa force, de la dévier d'une certaine manière pour l'amener dans une posture où il peut plus rien faire, où il va plus pouvoir nuire. Il n'y a plus ni vainqueur ni vaincu. Dans ce sens-là, il n'y a pas de compétition non plus au sein de l'aïkido. Mmh. Les deux apprennent.
Alors, on va vous suivre sur le terrain, enfin, j'allais dire sur le tatami, ou ce qui tient lieu de tatami. Vous nous emmenez au centre sportif de Makolin, au-dessus de Bienne.
Oui, c'était durant le week-end de Pentecôte dernier. Deux maîtres japonais d'aïkido étaient accueillis pour un stage de 3 jours. Kurubashi Sensei et Suzuki Sensei. Il y avait environ 60 participants, hommes, femmes, plus ou moins jeunes, plus ou moins vieux, plus ou moins corpulents aussi, hein. Des Suisses, des Français, des Estoniens, tous habillés en blanc, soit totalement en blanc à la manière des judokas, ou bien un haut blanc et puis un large pantalon noir, ce qui fait que les mouvements sont assez élégants, hein. Et puis, On était dans une grande salle de Macolin, divisée en trois. Donc à côté de nous, il y avait des gens qui faisaient des exercices avec des ballons, ce qui fait qu'on va entendre pas mal de bruits qui n'ont strictement rien à voir
d'accord,
avec l'aïkido, ma foi désolée. Il y avait aussi au fond de la salle un autel avec un arrangement floral japonais et la photo du fondateur de l'aïkido, Moriei Yoshiba, on y reviendra tout à l'heure. Alors, pour l'instant, les maîtres japonais montrent des exercices, ils donnent aussi des instructions. La traduction est assurée par un maître d'aïkido suisse, Jörg Steiner, qui est responsable du centre Kumano de Bienne.
Good morning, everybody. Bonjour, tout le monde. Bonjour. ファイト気持ちとスイスの大自然の気をいただいて日本に帰ります。申し訳ないです。ありがとうございます。
Il dit que il essaie de d'amener toute l'énergie qui est en Suisse et puis va l'amener au Japon après avec un sentiment avec plein de joie.
Aikido は大自然との調和。
On essaie d'absorber l'énergie de notre planète qui rentre par le saut des pieds, ça monte dans les jambes, ça monte dans le ventre, ça devrait monter jusque dans la tête. Et cette énergie devrait même monter par la tête vers l'univers. Et deuxième, c'est l'énergie de l'univers qui rentre par la tête, ça descend la colonne vertébrale jusque dans le ventre et ça devrait aller juste en bas, dans la terre. Et puis on a la troisième énergie, le nôtre, qui est créé par aussi ces deux énergies, l'énergie universelle et l'énergie de notre planète. Et on travaille avec ces énergies qui vont créer une énergie énorme. Alors c'est vraiment important que tous on a des choses un peu négatives aussi dans notre être et c'est important de purifier les choses négatives dans notre être et de les purifier dans quelque chose de positif. On peut faire avec cette méthode de respiration.
C'est
pour ça, c'est vraiment important. Le matin, quand on se lève, quand vous vous levez, c'est bien d'avoir un sentiment de gratitude, de dire merci au Kami, au divin qu'on existe, qu'on peut être sur notre planète. Et ça change notre être en faisant ça tous les jours régulièrement. Close your eyes slightly. Fermez les yeux, moitié.
Tous les participants sont maintenant debout, les pieds écartés très droits. Et ils ont les deux mains jointes, mais qui forment une ouverture au niveau du pubis. Tout à l'heure un mouvement de rameur très rapide, très fort, avec les bras tantôt en avant, en arrière, en avant, en arrière. Maintenant les participants se mettent en rond autour du maître.
Alors c'est la troisième technique qu'on va faire, c'est avec un but différent. On essaye de déséquilibrer la personne qui nous attaque. On essaie de l'amener dans le centre, de lui contrôler, dans notre centre. C'est important qu'il n'est pas loin du centre. C'est important de déséquilibrer le partenaire. Première chose. Fermez le coude, baissez les hanches, remontez.
Là, c'est un exercice là où l'attaquant finalement est déséquilibré et puis il tourne d'un côté, on lui met le bras sous le cou et hop, on le fait tomber. Ça fait combien d'années que vous pratiquez l'aïkido ?
Ça fait 7 ans. En fait, à la base, je ne suis pas du tout intéressé par les sports de combat. C'est quelque chose qui ne m'inspire pas, qui ne me dit rien du tout. Et c'est vraiment cette espèce de ressenti, au moment de la première pratique que j'ai faite, cette espèce de ressenti qu'il y avait autre chose derrière, que l'essentiel n'était pas dans les techniques, n'était pas dans les mouvements, mais qu'il y avait quelque chose qui coulait, une sorte de flux comme ça, que je ressentais, que j'ai ressenti à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a touché et qui fait que j'ai décidé de continuer à pratiquer régulièrement. On a des sensations d'énergie qui se déplace, de zones de chaleur qui se font dans les bras ou au niveau du bassin et ce genre de choses. Et ça apporte un vrai apaisement. C'est-à-dire que le bruit qu'on a dans la tête, après une pratique comme celle-là, eh ben, on entend moins, quoi.
Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette pratique, au plan de votre comportement, de votre manière d'être ?
J'imagine beaucoup plus de calme. Moi, par exemple, je suis enseignant et j'ai affaire à des attitudes en classe, des choses comme ça. Et c'est beaucoup plus facile de gérer ce genre de moment. Et au moment où on est agressé, on ne se sent pas agressé directement. Et puis, du coup, on est davantage capable, petit à petit, d'accueillir la personne, de garder la personne présente derrière l'élève agressant. Et alors, dire pratiquement ce qui se passe, c'est à chaque fois différent. Mais ça peut être une remarque désarçonnante, ou ça peut être simplement quelque chose de... On va en parler plus tard, pour l'instant, ou ça peut être... J'ai l'impression que t'es en colère, qu'est-ce qui te pose problème ? Ça permet petit à petit d'éviter de surréagir et d'être conditionné par la réaction de l'autre. C'est-à-dire que souvent, avant même que la parole, avant même que le geste vienne, souvent on les a anticipés, on les a sentis venir d'une certaine façon.
Un des participants au stage d'aïkido à Macolin, au centre sportif national au-dessus de Bienne. Catherine Erard, c'est intéressant de voir l'impact de la pratique de ce sport sur le comportement de l'individu.
Attention au mot sport, hein, j'ai été reprise plusieurs fois. Ils ne le considèrent pas comme un sport, c'est beaucoup plus qu'un sport, c'est un art de vivre. Alors pour mieux comprendre comment le fait de pratiquer une activité physique, on peut quand même dire ça, modifie le comportement, j'ai rencontré un autre maître d'aïkido, Jean-Pierre Kunzi, c'est un sportif accompli. Et puis vers 30 ans, il a découvert l'aïkido. Ça fait actuellement 20 ans qu'il le pratique, donc il est maître. Et il m'a reçu dans son dojo près de Genève, le Takemuso Dojo.
Mon maître disait, l'aïkido, c'est la voie royale. Parce qu'on n'avance pas seul. On est toujours aux prises avec une personne, avec un partenaire, qui en réalité est notre adversaire puisqu'il est sans arrêt en train de nous agresser. Et le fait que cette personne ne nous laisse pas tranquille, nous agresse en permanence, réveille en nous tout un tas de choses, tout un tas de pulsions. Alors selon les caractères, ça peut être de l'agressivité qui va être réveillée. Selon d'autres caractères, ça sera plutôt des angoisses, des peurs. Et ça fait remonter tout un tas de pulsions, de sentiments, d'émotions qui remontent de l'inconscient et qui arrivent dans le conscient. Et on est sur un tatami, on est dans un lieu sécurisé, où on sait que ces choses-là, elles peuvent remonter. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on apprend à voir ce qui est au fond de nous. On apprend, on découvre quel est notre réel caractère. Et peu à peu, ce caractère-là va changer. On va demander à l'individu simplement de changer son action. Et quand on va voir qu'une personne, à cause de la peur, elle ne va pas être correctement installée dans son centre, elle ne va pas être correctement en équilibre, parce que mue par sa peur, elle est déjà en train de reculer avant même que l'adversaire l'agresse, on va simplement lui demander de changer sa posture, de commencer à initier son mouvement avant que l'autre l'agresse. Et par la simple expérience, la personne va pouvoir avancer sur elle-même sans avoir besoin d'exprimer ce qu'elle vit, sans qu'on ait besoin d'en parler. En Asie et en Extrême-Orient, on pense que le corps et l'esprit sont liés et on agit sur les deux. Et ce qui est intéressant en aïkido, c'est qu'on peut intervenir sur l'un et ça fait bouger l'autre. Et l'aïkido, c'est une voie d'éducation, c'est une voie de réalisation de soi où on agit beaucoup sur le corps. Mais en agissant sur le corps, on agit sur l'esprit.
Vous me disiez aussi tout à l'heure que la pratique que vous avez faite vous a fait trouver votre centre. Alors, c'est à la fois physique et j'imagine aussi psychique, enfin spirituel.
Oui, tout à fait. Le chemin en aïkido, se déroule sur différents plans, simultanément. Sur un plan tout à fait pratique, d'abord, c'est trouver son centre, c'est trouver son équilibre. Dans de nombreuses techniques, quand quelqu'un nous pousse, nous bouscule, nous tire, on perd notre équilibre. Donc la première chose, c'est d'essayer de garder son équilibre en toutes circonstances. Mais essayer de trouver son équilibre en toutes circonstances, quand on fait ça des milliers de fois sur les tatamis, petit à petit, s'inscrit des choses dans l'être, dans l'esprit justement, qui fait que dans toute situation hors du tatami, on va aussi pouvoir garder ce centre-là. On va être moins facilement déstabilisé par les événements de la vie, par exemple. Et cela ne se fait pas parce qu'il y a un meilleur contrôle de moi-même. Ce n'est pas une question de contrôle. C'est une question de lâcher prise. C'est une question d'être moins perméable, d'être moins vulnérable. On est touché par ce qui se passe autour de nous, mais on est moins affecté.
Jean-Pierre Kunzi, maître en aïkido, cet art martial qu'il pratique depuis plus de 20 ans. Mm-hmm. Catherine Erard, on comprend l'impact que cela a sur le comportement, mais il y a aussi une dimension, on va dire, philosophique, spirituelle, très importante dans l'aïkido.
Oui, d'ailleurs, c'est assez proche, ça s'inspire du Shinto, cette religion japonaise animiste qui voit le divin, les dieux, les kami, comme on les appelle, présents dans la nature. Donc, il y a une grande importance des énergies, on l'a entendu en début de reportage, et j'ai pu interviewé un des maîtres japonais qui était présent à Makolin, Kuribayashi Sensei. Interview avec la traduction de Jörg Steiner. Donc pour la petite histoire, Jörg Steiner s'est rendu au Japon pour pratiquer le zen d'abord.
Le bouddhisme zen.
Et oui, et en fait, il a découvert l'aïkido. Il a été passionné par ça et donc il est resté 12 ans au Japon. Il est actuellement aussi maître d'aïkido. Donc on retourne maintenant sur ce dojo dans la salle des sports de Makolin.
Mettez beaucoup d'énergie dans le point des, dans le bout des doigts. Et on va glisser sur le sol. Il ne faut pas sauter, il faut glisser sur le sol.
Voilà, maintenant tout le monde se met debout et se met également par deux à pratiquer ces exercices. Je vais en profiter pour interviewer un des maîtres japonais, Morio Kuribayashi. Vous avez dit aux participants que c'était bien le matin de remercier les dieux parce qu'on fait partie de cette nature. Est-ce que dans l'aïkido, il y a une croyance en des dieux ?
La religion ou être religieux, ça veut dire ce sentiment de gratitude dans notre être, d'être ici sur notre planète. Et il a mis comme exemple, en buvant de l'eau, on a un sentiment de gratitude pour l'eau. Ou si en mangeant, on devrait avoir ce sentiment de gratitude. C'est comme, pour lui, ça c'est la religion, non? Sentiment de gratitude pour tout ce qui est autour de nous. Pour lui, Dieu ou divin ou divinité, c'est la nature, c'est la beauté de notre planète. C'est ça, le kami veut dire Dieu. Ouais. Alors, c'est pas une personne, un seul humain ou quelque chose, c'est la nature, la beauté de.
Et d'être en communion, de se sentir en communion avec ça, quoi, enfin, uni à ça.
Ouais, c'est ça la religion de lui.
J'ai lu que le fondateur disait que la force physique, c'est rien par rapport à la force spirituelle. Et vous avez fait tout un rite, justement, pour capter ces énergies autour de nous. C'est quoi cette force spirituelle qui se manifeste aussi dans la pratique de l'aïkido ?
L'énergie physique est beaucoup limitée. Mais l'énergie spirituelle, il n'y a pas de limite. Illimité. Ouais. Alors, ça va créer tellement une force incroyable. Ouais. Beaucoup plus fort que la force physique. C'est pour ça qu'on travaille avec la force spirituelle.
Dernière question. Quand je suis arrivé un petit peu en retard. Vous étiez tous prosternés devant ce petit autel. Hein, je pense où il y a des fleurs. Il y a également le tableau du fondateur, une photo du fondateur. Ouais.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce rituel du départ ? Est-ce que c'est une vénération du fondateur de l'aïkido ? Comment il faut comprendre ça ?
On commence toujours, on va saluer le fondateur, c'est le Morihei Ueshiba, pour commencer. Et après, il a fait des prières pour tout le monde, qu'il n'y aura pas de blessures, que tout le monde travaille bien, que tout le monde travaille avec l'esprit correct, l'esprit juste.
Merci, merci beaucoup.
On va faire un petit pause, s'il vous plaît. Short break, please. Et si on a des jours qu'on est triste, qu'on ne se va pas bien, c'est vraiment important de changer ce sentiment de tristesse et de changer avec un sentiment de gratitude, d'air positif.
On a vu ici au départ qu'il y avait tout un aspect important de captation des énergies. Il y avait aussi un petit rituel au départ. Comment est-ce que vous vivez cette dimension assez spirituelle de l'aïkido ?
Au début de ma pratique, je vivais ça simplement, je ne me posais pas de questions. C'est-à-dire, je ne savais pas trop ce qu'était l'aïkido, ça m'intéressait. Parce que j'ai senti dans mon corps et dans mon esprit aussi que ça changeait ma manière de vivre, de voir les choses de la vie, d'être avec ma famille, mes voisins, mon travail. Toutes les choses se mettaient en mouvement. Donc cet aspect-là, au début, j'ai un peu passé à travers en l'apprenant telle qu'elle était, sans me poser trop de questions. Petit à petit, ça s'est reposé finalement sur mes croyances judéo-chrétiennes. J'étais élevée dans une famille catholique et il y a eu un temps où j'ai laissé tout ça tomber. Mais l'aïkido, petit à petit, cet aspect spirituel s'est reposé sur mes propres croyances d'adulte à ce moment-là. Et je les ai intégrées parce qu'au Japon, les choses s'intègrent, elles s'additionnent, elles s'annulent pas. C'est pas une qui est mieux que l'autre, une croyance mieux qu'une autre. On peut prendre avec. Et finalement, c'est le chemin qui est beau. Et dans la pratique de l'art martial, l'aïkido, on fait ce chemin personnel, spirituel, physique, psychique, à travers notre corps, plutôt qu'à travers quelque chose de plutôt littéraire ou d'autres chemins, etc. Et finalement, ces choses que je n'avais pas senties dans mon éducation religieuse, tout d'un coup, elles reviennent, elles prennent du sens et elles se développent. Par exemple, le sentiment de gratitude. Bien sûr, dans mon éducation chrétienne, on m'a dit il faut dire merci, il faut remercier les anciens, il faut remercier Dieu, il faut pour ce que tu as dans ton assiette, etc. Mais quand vous pratiquez l'aïkido, petit à petit, au début, vous remerciez, vous saluez, vous faites des tas de gestes qui sont codés. Mais tout comme dans la religion catholique, il y a des gestes codés. Et au début, vous les faites, vous ne savez pas trop. Mais petit à petit, vous mettez du cœur dans ce que vous faites. Et quand vous dites merci en saluant quelqu'un sur le tatami après avoir fait une pratique, par exemple, vous lui dites vraiment merci parce que vous avez découvert des choses. Vous avez tout d'un coup réussi un geste. Et donc, vous saluez, vous dites merci. Et ce sentiment de gratitude, vraiment, il respire différemment, en fait. Il a du sens différemment. Et du coup, vous remerciez aussi. Vous avez petit à petit né une reconnaissance envers vos parents, peut-être envers le fait que vous existez, que vous pouvez vivre la vie que vous menez. Et c'est quand même un sens plus spirituel. Ma croyance en Dieu, elle est globale. Et Dieu aussi, il est partout. Il existe aussi partout, dans la nature, dans les êtres humains. Ça existe aussi dans la foi catholique. Donc en fait, ça a du sens pour moi, ça aussi. Ce côté, même si pour nous, un arbre, c'est pas proprement dit sacré, comme au Japon, mais la nature et ce qui nous entoure, si on regarde les fondements quand même de la Bible ou les lectures qu'on peut faire d'un point de vue chrétien, on voit que c'est ensemble, on voit que c'est la même chose quelque part. Donc c'est assez facile.
Une des participantes au stage d'aïkido à Macolin, auquel vous avez participé, Catherine Herra. Juste un point de détail, on a entendu des applaudissements. Qu'est-ce que c'était ?
Oui, c'est juste parce qu'au moment où je lui posais certaines questions, il y avait la fin d'un enseignement et donc les participants ont applaudi, mais ça n'a rien de spécial comme signification. Hein.
D'accord. Mais donc, on a compris, pour elle, cette pratique lui a permis, on va dire, de redécouvrir sa propre tradition religieuse.
Voilà, c'est un cas parmi d'autres. Hein. J'ai discuté avec d'autres personnes pour qui ça n'a pas du tout eu le même impact. Mais quand même, la plupart part, quand ils cheminent à l'intérieur de l'aïkido, je dirais, découvrent une dimension plus spirituelle ou plus philosophique de l'existence. Hein.
Mais est-ce que ça veut dire, au fond, qu'on ne peut pas faire de l'aïkido comme n'importe quel sport et que, de toute façon, à un moment donné ou un autre, va se poser la question de la religion ou de la philosophie ?
Non, alors, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup qui pratiquent ça uniquement comme un sport de combat, comme n'importe quel autre sport. La branche de l'aïkido qui est représentée par les membres qui sont présents à ce stage est une branche quand même très spirituelle, très proche des fondateurs de l'origine japonaise de l'aïkido. Mais j'ai quand même posé cette question à Jean-Pierre Kunzi, qui est le responsable du Takemuso Dojo à Genève, pour savoir si on pouvait faire uniquement de l'aïkido d'un point de vue sportif.
On peut tout à fait travailler uniquement sur l'aspect de la technique, sur l'aspect sportif, voire même sur l'aspect de l'efficacité des mouvements. Et en général, c'est ce qui se produit chez tous les pratiquants lorsqu'ils débutent l'aïkido. Mais l'aïkido, c'est un vaste chemin, c'est un do. Au même titre que le judo, karaté-do sont des voies d'épanouissement de soi. Et lorsqu'au bout de plusieurs années, voire de 10 ans, on a fait le tour de toutes les techniques et de la gestuelle, petit à petit, on comprend que derrière ceci, il y a autre chose. Au début, quand on voit deux débutants ou quand on pratique avec un débutant, même des hommes qui viennent, qui sont dans la force de l'âge, qui ont une trentaine d'années, qui sont solides, costauds, qui ont une bonne musculature, et c'est amusant de les voir essayer de nous attraper, de nous agresser avec toute leur force, avec toute leur énergie, toute leur force. On leur demande d'ailleurs de le faire avec sincérité. Et puis de voir combien ils s'épuisent rapidement parce que face à cette force, ils trouvent comme réponse chez nous, qui avons une certaine expérience, ils rencontrent le ki. Et la force n'a plus rien à faire avec le ki. On est dans deux univers différents. Et le ki, c'est une énergie qui ne nous appartient pas, qui est bien au-delà de la force physique de n'importe quel individu.
J'ai regardé également une vidéo où on voit le fondateur, qui est aujourd'hui décédé, hein, il est mort en 69. C'était un petit homme, déjà âgé, et on le voit, c'est tout à fait impressionnant, qui arrive à mettre par terre tous ses attaquants. Alors, de l'extérieur, on a l'impression qu'il ne fait rien, mais personne n'arrive à le faire tomber. C'est très, très impressionnant. J'aimerais qu'on revienne avec vous, Jean-Pierre Kunzi, sur l'histoire de cet homme, Moriei Ueshiba. C'était d'abord un soldat.
Oui, d'abord, c'était un jeune homme qui a fait ses études, des études de commerce. Et puis, c'est un homme qui s'est cherché durant toute sa vie, surtout quand il était jeune. Il cherchait à trouver une activité qui pouvait l'épanouir d'une certaine manière. Et puis, par la force des choses, il a été amené à suivre des écoles d'arts martiaux. Il est allé s'est formé là. On a vu chez lui beaucoup de détermination, beaucoup de force, ce qui fait qu'à un moment donné, il s'est engagé dans l'armée, effectivement, dans l'armée japonaise, et était soldat.
C'était aussi le moment de la guerre entre la Chine et le Japon, hein, puisqu'il est né en 1883, hein, et c'est une guerre au début du siècle dernier, 1904.
Oui, tout à fait. Donc, au départ, eh bien, voilà, il est parti à la tête de ses troupes, avec ses troupes, et il allait combattre. Et très rapidement, il a réalisé que le combat n'avait pas d'autre issue que la mort et que ce n'était pas la bonne voie à suivre. Mais c'est quelqu'un qui s'est engagé dans des grands projets humanistes. Et notamment, il est allé en Hokkaido, dans le nord du Japon, pour aller créer une colonie. Dans le moment de la colonisation de cette île du nord du Japon, il s'est engagé dans différents projets. Il est parti avec un de ses maîtres spirituels en Mandchourie pour aller essayer de créer une nouvelle nation de la paix et de l'harmonie, une espèce de grande nation spirituelle. Et c'est quelqu'un, je pense, qui cherchait à donner du sens à sa vie, à son existence.
Est-ce que vous pourriez revenir sur son parcours plus spirituel ? Parce qu'il décrit aussi des expériences mystiques qu'il a connues.
Oui, par exemple, lorsqu'il était en Mandchourie, tout le petit groupe était la proie d'agresseurs et de différentes troupes militaires locales et de bandits qui les poursuivaient. Et à un moment donné, ils ont été cernés et les troupes autour leur tiraient dessus. Et Lao Sensei a relaté qu'il voyait arriver les balles de fusil et avant la balle de fusil, il voyait apparaître un trait de lumière. Donc il lui suffisait de s'écarter de cette lumière-là Et juste un instant après, la balle passait. Et il avait cette espèce d'intuition de pouvoir voir où la balle allait passer, de pouvoir s'en écarter, de pouvoir s'écarter de la trajectoire juste avant que la balle passait. Il a été épargné des balles et il s'en est sorti indemne. Ça, c'est une des expériences. Plus tard, il en a fait d'autres expériences où il a senti effectivement qu'il appartenait, il faisait partie intégrante de la grande nature, de l'univers, du tout.
Ça, c'est quelque chose d'assez important chez lui, cette idée que tout provient d'une même source.
Absolument, absolument. Que tout est issu de la même source, du même point d'origine, du même état. Et cet état, c'est un état naturel, c'est un état, c'est l'état originel de la création de toute chose. Et il a exprimé qu'il avait atteint cet état-là, lui-même, dans son travail, dans son étude, dans ses purifications, qu'il avait trouvé cet état-là, qu'il avait accédé à cet état-là. On appelle ça aussi un état de vide. De permettre d'être suffisamment vide pour pouvoir laisser entrer en soi toutes les énergies de l'univers, toutes les énergies qui créent la vie, sur Terre, mais aussi au-delà de la Terre. Les planètes qui tournent entre elles, les astres qui grandissent, qui explosent, qui meurent, enfin toute la vie qui est impermanente, les saisons qui changent. Et Osensei disait qu'il avait réussi à être entièrement vide et laisser entrer en lui toutes ces énergies-là, ce qui faisait qu'il était entièrement connecté à l'origine de toutes les énergies qui créent la vie. Et à ce moment-là, il pouvait être capable à peu près de tout réaliser.
Le maître d'aïkido suisse Jean-Pierre Kunzi. Si on écoute le récit qu'il vient de faire, Catherine Herra, on a l'impression que le fondateur de l'aïkido, c'est vraiment, c'est Superman.
C'est vrai qu'on va dire qu'il bénéficie d'une forte aura parmi certains des pratiquants. Finalement, c'est quelqu'un qui a réussi à construire sa légende, en tout cas qui n'a pas empêché d'autres de véhiculer une certaine légende autour de ce personnage. C'est clair, il y a certaines zones d'ombre hein, dans sa vie, par exemple, autour de la Seconde Guerre mondiale. On ne sait pas très bien non plus dans quelle mesure il a formé aussi des soldats japonais, dans quelle mesure ces enseignements n'étaient pas si pacifiques que ça. Enfin, voilà, il y a beaucoup de bruit qui circule, il faudrait enquêter davantage, mais ce n'était pas le but de cette émission. Il reste que quand même, au Japon, il est considéré comme un des grands maîtres en arts martiaux, aujourd'hui toujours. Et puis, le côté humaniste, pacifique, les valeurs qui sont véhiculées par l'aïkido sont largement reconnues aujourd'hui.
Merci beaucoup Catherine Erard d'être allée à Macolin pour nous, pour comprendre un peu plus l'arrière-fond religieux et philosophique de l'aïkido. On retrouvera sur notre site internet des photos de ce stage que vous avez mis en lien sur notre page internet.
Voilà, des photos et puis également des liens vers les centres d'aïkido ici en Suisse romande.
D'accord, notre page internet rts.ch/haute-fréquence. Et puis bien sûr, vous pouvez nous laisser un message sur notre répondeur téléphonique au 058 236 60 70.
Here we go.
Ça s'appelle Perspective par Tim et Puma Mimi. C'est un choix de notre programmatrice musicale Nathalie Schauenberg. Le revenu de retrouver notre chronique dans haute fréquence. Gabriel de Sarzan s'intéresse aux objets emblématiques des trois grandes religions monothéistes. Alors on va parler ce soir de la croix des chrétiens avec, une fois n'est pas coutume, deux intervenants, le pasteur Jean Chollet et le père jésuite Albert Longchamp. C'est avec ce dernier qu'on commence.
La croix représente vraiment l'un des grands piliers de la foi chrétienne. Mais la croix n'est pas un signe à proprement chrétien. Il existait déjà au temps de l'Égypte. Et c'est à la suite de la mort du Christ, mais plusieurs siècles après sa mort, que ce sigle est devenu, je dirais, l'emblème même du christianisme.
La croix simple, le crucifix avec le Christ dessus, ou la croix orthodoxe avec tout en haut une barre oblique qui est au fond la reprise du panneau. Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs, INRI. Et puis en bas, une autre planche qui n'est pas tout à fait parallèle non plus et qui penche aussi, qui est celle des pieds. Et puis au milieu, celui des bras. Ou bien on peut reprendre un autre exemple au fond de développement de ce symbole de la croix, qui est par exemple la croix huguenote, où on a quatre branches, cette fois-ci égales, qui sont les quatre évangiles. On a au centre un rond qui peut être la couronne d'épines, mais qui peut aussi être le rond qui rassemble ces quatre évangiles. Et puis on a huit boules au bout de ces quatre branches de la croix qui représentent les béatitudes. Puis évidemment, la colombe de l'Esprit-Saint en bas. Donc on a tout ça dans la croix huguenote, et puis d'innombrables croix qui se sont développées pour raconter des éléments essentiels du message du Christ, de l'Évangile, à travers un symbole.
La croix a ceci de particulier, c'est qu'elle évoque à la fois des formes géométriques, le cercle, le carré, le triangle, autrement dit, la structure ou l'architecture du monde. C'est pour ça peut-être qu'elle a pris une telle place, non seulement parce qu'elle était le lieu d'un supplice, mais parce qu'elle était le lieu symbolique un peu de notre monde. Alors bien sûr, au fond de toute personne croyante, la croix rappelle la mort de Jésus. Le sens de la croix, c'est un Dieu ou Fils de Dieu qui se révèle, non pas dans la puissance, comme le font tant de rois ou de leaders du monde, mais dans le don de sa vie. Au fond, Jésus accepte douloureusement d'aller jusqu'à la mort librement par amour, par solidarité de sa vie avec celle de tous les hommes.
Une chronique proposée par Gabriel de Sarzan.
Infotrafic RTS
avec Kyocera, imprimante et copieur laser, kyocera-document-solutions.com.
Des précipitations rendent les conditions de circulation très difficiles par endroits en Suisse romande. Il est conseillé d'éviter le secteur de Moudon où plusieurs routes sont fermées, notamment la route de Berne à la hauteur de Moudon en direction de Lausanne, la route principale entre Sautant et Moudon, la route cantonale entre Montet dans la Glane et Moudon, ainsi que la route principale entre Thierrens et Moudon. Au chapitre du trafic ferroviaire, suite à un glissement de terrain sur la ligne Lausanne-Payerne, les trains ne circulent plus entre Écublens-Rue et Payerne. Un service de bus de remplacement a été mis en place, mais la durée du voyage est évidemment plus longue. Cette situation devrait se prolonger jusqu'à dimanche prochain environ. La ligne reliant Genève à Bellegarde est également interrompue entre la Plaine et Bellegarde car des animaux se trouvent à proximité des voies. Il faut s'attendre à d'importants retards et à d'éventuelles suppressions de trains. Enfin, suite à des travaux sur la ligne Payerne-Mora, les trains ne circulent plus entre Don Didier et Mora. Ils sont remplacés par des bus jusqu'à nouvel avis.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
Toute l'équipe de Haute Fréquence vous souhaite une excellente suite de soirée car nous arrivons au terme de cette édition. Après les informations, vous avez rendez-vous avec Histoire Vivante. Un coup de chapeau et un remerciement à Sabine Peterman, Catherine Erard pour les sujets, Jean-Claude Gailly pour la réalisation, Nathalie Schoenberg pour le choix des musiques et à Hélène Ichters ce soir en régie. Radio-télévision Suisse, la première, il est 20h.